Décryptage. Anne Cantner.
La filière nucléaire dans la tourmente en France. Les difficultés s'accumulent et chaque semaine semble apporter son lot de problèmes pour l'entreprise EDF. Au moins 5 réacteurs sont menacés d'arrêt à cause de problèmes techniques. Le projet de réacteur de 4e génération est abandonné, du moins pour le moment. Le chantier de l'EPR de 3e génération est un fiasco et les réacteurs de la 2e génération, eux, sont vieillissants. Sans compter l'épineuse question des déchets. L'avenir de la filière nucléaire française est-il compromis? Bienvenue dans Décryptage. Pour en parler, nous recevons Yves Marignac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez Wise Paris, qui est une agence indépendante sur le nucléaire et l'énergie. Alors avant d'aborder les difficultés que j'évoquais à l'instant, j'aimerais que l'on précise ce que représente le nucléaire en France. 58 réacteurs répartis dans 19 centrales, si je ne me trompe pas,
c'est
et qui
ça.
Permettent de fournir la grande majorité de l'électricité qui est consommée dans le pays.
Oui, alors environ 3/4 de notre électricité, c'est pas seulement les réacteurs d'ailleurs, c'est aussi des usines hein, qui enrichissent l'uranium, qui fabriquent le combustible, qui retraitent le combustible, la fameuse usine de La Hague. C'est un véritable complexe industriel et ce complexe industriel effectivement est aujourd'hui en crise. Vous l'avez dit, le tableau que vous avez brossé est tout à fait juste s'y ajoute d'ailleurs la dimension industrielle et financière.
200 000 emplois environ en France qui sont liés à l'industrie nucléaire.
200 000, 400 000 selon les chiffres. C'est un secteur important. Ça n'est pas forcément le premier secteur industriel français. Et une partie de ces emplois sont des emplois qui sont dans des entreprises qui ne travaillent pas que pour le nucléaire, donc qui sont relativement facilement convertibles, mais évidemment, ça fait partie bien sûr du sujet.
Alors, les installations nucléaires en France sont placées sous la surveillance de l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette institution s'appuie pour les examens techniques sur une autre institution, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, et toutes les deux sont totalement indépendantes du pouvoir. Yves Marignac, c'est important de le préciser.
L'autorité de sûreté nucléaire, en tout cas, est une autorité indépendante, hein, sous le même régime que beaucoup d'autres, ce qui est le cas depuis 2006. L'Institut de radioprotection nucléaire est un institut indépendant au sens où il mène ses recherches et ses études effectivement de manière indépendante, mais il est quand même, c'est un institut public sous tutelle de différents ministères.
Bien que les exploitants soient vigilants, l'ASN constate encore trop souvent des écarts de conformité par rapport à leur référentiel de sûreté. Les efforts qui ont été réalisés ces dernières années dans le cadre des examens de conformité réalisés à l'occasion des réexamens de sûreté doivent être encore approfondis.
Les recommandations du directeur de l'autorité de sûreté nucléaire, Bernard Dorogiuk. L'ASN qui se penche en ce moment sur un certain nombre de problèmes, des problèmes de soudure rendus publics au début de la semaine par l'entreprise EDF qui gère les centrales françaises. 5 réacteurs au moins sont concernés et ce n'est pas tout. L'autorité de sûreté nucléaire a aussi décidé hier de placer la centrale de Flamanville dans le nord-ouest de la France sous surveillance renforcée. En quoi cela consiste cette surveillance renforcée, Yves Marignac?
La surveillance renforcée, c'est simplement lié au fait que l'autorité de sûreté nucléaire a constaté sur cette centrale de Flamanville, sur les deux réacteurs en service, puisque c'est la même centrale où on construit l'EPR, réacteur de 3e génération, elle a constaté un nombre plus important que la moyenne et indicateur de problèmes d'organisation, de surveillance, etc., de ce que Bernard Dorogiuk a à l'instant appelé les écarts de conformité au référentiel de sûreté, c'est-à-dire des situations où les matériels, les équipements, les modes d'organisation, tout ce qui participe de cette sûreté si importante, sont en réalité sur le terrain dans un état de non-conformité, c'est-à-dire dans un état différent de celui qu'on suppose sur papier dans la démonstration de sûreté. Et évidemment, plus il y a d'écart de conformité avec le risque qu'il se cumule, plus on risque d'être confronté à des situations, y compris accidentelles, qu'on n'a pas prévues ou qu'on maîtrise moins bien, d'où cette alerte et d'où une surveillance accrue, ce qui veut dire que l'autorité va faire plus d'inspections, va exercer de manière plus pressante son regard et son contrôle sur cette centrale pendant une certaine durée jusqu'à revenir à un niveau considéré comme plus acceptable.
Et si les problèmes persistent, est-ce que cette autorité est en mesure de faire arrêter les réacteurs ?
Alors l'autorité de sûreté nucléaire a un pouvoir de mise en demeure et a effectivement un pouvoir lorsqu'elle considère que les problèmes sur un réacteur, sur une centrale, sont vraiment de nature à remettre de manière immédiate et très forte la sûreté en cause, l'autorité de sûreté nucléaire a le pouvoir d'imposer l'arrêt temporaire, voire définitif, d'un réacteur.
Alors c'est un coup dur supplémentaire pour cette centrale de Flamanville, vous le disiez, puisque elle est déjà empêtrée dans le chantier extrêmement laborieux de l'EPR, qui est un type de réacteur de troisième génération. EPR, ça signifie réacteur pressurisé européen. La mise en service ne cesse d'être reportée. EDF mise maintenant sur la fin de l'année 2022 au mieux, ce qui représente un retard de 10 ans par rapport au plan initial. Yves Marignac, ces problèmes techniques ont commencé dès le début du chantier. Comment se fait-il qu'il y en ait eu autant ?
C'est très difficile à expliquer et forcément il y a un faisceau d'explications, mais globalement ce qu'on constate c'est aussi bien d'ailleurs sur le chantier EPR que sur les gros chantiers liés au renforcement de la sûreté sur les réacteurs existants ou à la maintenance lourde, le remplacement de gros composants par exemple, il y a une perte de maîtrise à la fois des gestes techniques. On a connu des situations où des voiles de béton n'étaient pas coulées conformément aux règles de l'art, par exemple. Il y a une perte de maîtrise vis-à-vis de l'exigence et de la culture de sûreté sur certaines actions. C'est ce qu'on a observé sur les soudures de l'EPR, donc le dernier problème en date qui conduit à ce report à nouveau de quelques années.
Parce que 8 soudures posent toujours problème. Nombre de soudures posent problème, dont certaines qui sont situées dans des lieux...
Plus de 60 soudures
difficilement accessibles
avaient été extrêmement sensibles et sur lesquelles EDF avait mis une exigence supplémentaire de robustesse. Plus forte encore dans sa démonstration de sûreté que l'exigence réglementaire de base, ces soudures ont été mal fabriquées. Donc là, il y a aussi un problème de geste, mais il y a aussi un problème de contrôle, de surveillance. Et puis, 8 de ces soudures sont placées à un endroit extrêmement sensible et où il sera extrêmement difficile de les réparer, entre les deux parois de cette enceinte, vous savez, ce dôme qui forme l'enceinte du bâtiment réacteur.
Et qui est censé protéger en cas d'accident.
Qui protège évidemment à la fois le réacteur d'agression externe et l'extérieur de problèmes se produisant sur la cuve et sur le réacteur lui-même. Ces 8 soudures, enfin... Là, on est sur un problème différent de maîtrise du risque de chantier. C'est-à-dire que placer une telle exigence de qualité sur ces soudures, par conception, très peu réparables, sans mettre un point d'arrêt de vérification absolue de la qualité avant de les mettre en place et de poursuivre la construction, là, c'est un défaut de maîtrise de chantier. Donc, tous ces problèmes s'accumulent. L'industrie n'avait pas construit de réacteur depuis longtemps. EDF a fait le choix, en même temps qu'elle engageait la construction de l'EPR, de repousser la perspective de nouvelles constructions en pariant plutôt sur la prolongation de fonctionnement des réacteurs existants. Donc elle a aussi isolé cette EPR de perspective de nouvelles constructions. Tout ça ne permet pas d'avoir un tissu industriel en ordre de marche. Et donc c'est l'ensemble de ces explications. Mais à travers l'EPR, vraiment face à une crise du système vis-à-vis de la maîtrise de la qualité et donc de la sûreté.
Sur ce chantier de l'EPR, il y a beaucoup de sous-traitants. EDF n'emploie que 900 personnes sur les 5000 qui travaillent à Flamanville sur le chantier de l'EPR. Et l'autorité de sûreté nucléaire, justement, avait souligné des manques dans la supervision.
Alors, c'est un phénomène commun à l'ensemble de l'industrie, mais ce phénomène de division du travail, d'abord au sein de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire la perte de maîtrise au niveau de la conduite de chantier dont je parlais, elle vient aussi du fait que les tâches relatives au chantier sont segmentées et que elles relèvent de directions ou de départements différents. Et puis, il y a de plus en plus d'appels à la sous-traitance et à la sous-traitance de sous-traitance. Et évidemment, à chaque fois, il y a dans la cascade de contractualisation et de traduction des exigences de sûreté dans la contractualisation et dans la cascade de surveillance de bonne réalisation, de plus en plus d'intermédiaires, ce qui rend évidemment les choses de plus en plus compliquées, sans parler du fait que cette sous-traitance, elle vient aussi d'aspects financiers, elle conduit en cascade souvent à faire appel à des personnels moins bien payés et donc en général moins qualifiés que ceux auxquels on ferait appel en premier niveau. Ça participe aussi de la perte de qualité.
Alors, deux EPR ont été mis en service en Chine. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile en France ?
Alors, là encore, difficile d'isoler une explication. Il y a un point d'interrogation sur le niveau comparatif d'exigence et de contrôle pour le bon respect de ces exigences. Mais il y a une explication qui me semble très claire, c'est la différence entre une économie qui reste en construction et qui développe des infrastructures, qui est l'économie chinoise aujourd'hui, et qui était l'économie française dans les 30 Glorieuses, au moment où on a su construire 58 réacteurs dans un temps extrêmement court. Donc entre une économie qui construit des infrastructures et une économie qui est stagnante et qui est saturée en infrastructures comme l'économie française, ça veut dire que le tissu industriel dont vous disposez, les personnels qualifiés typiquement pour faire de la soudure, se concentrent sur quelques projets, et donc vous n'avez pas le même vivier et le même maintien de compétences.
Décryptage sur RFI. Anne Contner.
L'un des autres coups durs des dernières semaines pour la filière nucléaire, c'est l'abandon du projet de réacteur de quatrième génération Astrid. Le commissariat à l'énergie atomique ne prévoit plus de construire de prototypes à court ou moyen terme comme prévu, mais plutôt dans la seconde moitié du 21e siècle. Et comment on peut expliquer cette décision, Yves Marignac ?
La difficulté à trouver une explication synthétique. Le projet Astrid, hein, il s'inscrit dans une vision qui est la vision dans laquelle vit le nucléaire français depuis plusieurs décennies, qui est une vision en quelque sorte de nucléaire perpétuel. À la fois dans l'idée qu'on va toujours avoir du nucléaire et dans l'idée que ce nucléaire va aller vers des solutions techniques où on réutilise et recycle en permanence les matières nucléaires. C'est l'objet de ce qu'on appelle ces réacteurs de quatrième génération, mais qu'en fait, on a déjà construit, c'était Phoenix, Super Phoenix, les réacteurs à neutrons rapides qu'on a essayé et qu'on a fermé.
Oui, parce que c'était ça l'ambition, d'utiliser l'uranium appauvri et le plutonium comme combustible, donc de réutiliser des matières qui avaient déjà servi ailleurs.
Et il y a derrière tout l'enjeu d'un nucléaire qui serait plus durable qu'aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est la perspective de long terme dans laquelle l'industrie nucléaire travaille. C'est un espèce de fantasme qu'elle nourrit pour s'inscrire dans la société, dans une vision de nucléaire pour toujours. Le problème est que la réalité industrielle derrière ça est que ce type de réacteur est extrêmement compliqué à faire fonctionner, que les enjeux de sûreté associés sont encore plus grands que ceux des réacteurs actuels, parce que on manipule beaucoup de plutonium, qui est quand même une matière extrêmement dangereuse, extrêmement problématique. On utilise du sodium pour refroidir le réacteur au lieu de l'eau dans nos réacteurs actuels, et le sodium est une matière chimique extrêmement instable qu'on utiliserait par milliers de tonnes. Donc il y a des enjeux énormes de ce point de vue-là, et aussi bien du point de vue de la sûreté que du point de vue des coûts, c'est vraiment difficilement maîtrisable. Donc il n'y a pas réellement de perspective industrielle dans un marché de l'électricité ouvert et qui va vers les renouvelables. Donc la décision d'abandon d'Astrid, qui n'est pas d'ailleurs une décision d'abandon des recherches sur ce sujet, c'est un abandon d'un prototype industriel. Donc c'est l'abandon d'une perspective industrielle à moyen terme pour cette filière. C'est simplement un réalisme par rapport à la situation actuelle. Mais évidemment, c'est un coup dur pour la filière parce que ça implique que toute cette construction d'avenir et de pérennité sur laquelle elle a basé ses choix depuis des décennies s'écroule. Et donc ça appelle à une remise en cause profonde de la manière dont l'industrie gère un certain nombre de sujets, le déploiement et l'évolution du parc, et bien sûr le sujet des déchets et des matières.
Vous parliez aussi du coût. Est-ce que EDF a intérêt financièrement à mettre en place tout ce système pour réutiliser des matières radioactives plutôt que d'acheter de l'uranium qui coûte très peu cher en ce moment sur les marchés internationaux?
On sait depuis très longtemps que tant que l'uranium reste à des prix relativement bas et reste relativement abondant, ce qui est la perspective dans laquelle on se place à moyen long terme, parce que l'évolution du parc nucléaire mondial aujourd'hui n'a pas de raison d'exercer une pression beaucoup plus forte sur cette ressource. Tant qu'on est dans cette vision-là, il n'y a aucune chance pour que les filières de type surgénérateur, même si industriellement elles pouvaient fonctionner à l'équilibre, etc., soient compétitives avec le nucléaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, et a fortiori avec d'autres filières, notamment les renouvelables, qui aujourd'hui sont et durablement plus compétitives que du nouveau nucléaire.
Alors on le disait, ces réacteurs de quatrième génération devaient réutiliser des matières radioactives issues du reste du parc nucléaire français. C'est ce que EDF appelle les matières valorisables, et l'abandon du projet évidemment risque d'avoir des conséquences sur ce point-là. Ces matières en ce moment, elles sont stockées à La Hague, dans le nord-ouest de la France. Yves Marignac, si ces matières ne sont pas réutilisées, est-ce qu'elles seront considérées comme des déchets?
Alors, c'est un des grands enjeux, notamment du débat public qui se tient actuellement autour de ce qu'on appelle le Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs, le PNGMDR.
Ce débat a commencé en avril et il doit prendre fin dans 2 semaines environ.
Tout à fait. Il faut comprendre, parce que vous avez utilisé le terme de matière valorisable, que dans le droit nucléaire, à l'inverse du droit général, une substance radioactive ou nucléaire bénéficie de ce statut de matière valorisable et échappe donc au statut de déchet réglementairement sur simple déclaration d'intention du propriétaire de cette substance, donc de l'exploitant nucléaire EDF par exemple, déclaration d'intention de réutiliser un jour.
Donc il suffit que EDF dise « je les mets de côté parce que ça va nous servir plus tard ».
J'ai un plan pour réutiliser un jour, pour que ce soit des matières valorisables. Évidemment, aujourd'hui, on accumule des centaines de milliers de tonnes de ces matières. Alors, dans ce paquet, il est très hétérogène, et on n'a pas, je pense, le temps de rentrer dans le détail, mais on accumule énormément de différentes catégories de matières dites valorisables, sans réemploi ou avec un réemploi très partiel, et surtout sans perspective réaliste d'emploi, en particulier à ces volumes-là, d'autant moins maintenant qu'on abandonne la filière surgénérateur en arrêtant Astrid. Et donc la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas être aujourd'hui réaliste et prudent et se dire que ces matières ont de fortes chances de ne pas être réutilisées et donc les requalifier de matières valorisables en déchets. La conséquence, et c'est ça qui probablement empêche aujourd'hui de faire ce mouvement réglementaire, c'est que si on le fait, il faut du jour au lendemain, la loi l'y oblige, comptabiliser des provisions pour le stockage de ces déchets, ce qui aurait un impact très lourd sur les finances d'EDF et de la filière.
Aujourd'hui, le traitement des déchets, combien ça coûte à EDF ?
Alors, j'ai pas de chiffres sur le coût actuel en tête. Les provisions globales d'EDF pour le démantèlement, la gestion des déchets, etc., c'est un peu plus d'une trentaine de milliards. Le coût cible défini par un décret, ce qui est assez absurde, pour Cigéo, le projet de stockage, d'enfouissement géologique
dans
l'est de la France.
Dans l'est, pardon.
C'est 25 milliards, probablement plus. Donc on parle de coûts en dizaines de milliards, et ne serait-ce que la requalification de ces matières en déchets, c'est probablement un coût entre 10 et 20 milliards à inscrire en provision.
Yves Marignac, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous dirigez l'agence Wise Paris, qui est une agence indépendante sur le nucléaire et sur l'énergie. Merci à tous d'avoir été avec nous à la réalisation ce soir. Alice Ménard, attachée de production, et Léonore Krenik, rédaction en chef, Jacques Alix. Bonne journée.